Chapitre 25. Mais le lendemain matin, au réveil, les villageois eurent la surprise, bonne pour les enfants, moins pour les adultes, d'avoir reçu la plus grosse bordée de neige de l'année. Si les précipitations avaient débuté la veille au soir, elles s'étaient intensifiées pendant la nuit, et la neige bloquait maintenant les fenêtres et les portes des habitations. Alors que Freddy émergeait du sommeil après une longue nuit réparatrice, il comprit bien vite que son projet d'annonce serait remis à plus tard. « Eh, Seigneur, je vais en avoir pour 2 jours à pelleter tout ça. » Le nez à la fenêtre de sa chambre à l'étage, il observa les voisins déjà à l'œuvre. Bourbeau marcelait, grimpé sur une échelle, dégageait les lucarnes de sa maison, pendant que Lucienne s'occupait lentement de déblayer le devant de la porte. La neige abondante tombée depuis le début de l'hiver dépassait presque la courte femme, qui mesurait tout juste 5 pieds. Depuis un mois, les chutes de neige s'accumulaient à un rythme effréné dans la péninsule. « J'espère juste qu'il fait pas trop froid. » L'homme s'empressa de sauter dans son pantalon de laine, enfila d'épaisses chaussettes tricotées et mit son plus chaud chandail à col roulé. Descendant les marches rapidement, il sourit en voyant sa femme, ses fesses rebondies bien moulées dans une jupe grise, penchée sur le plancher pour faire rire son bébé. Arthur était presque toujours de bonne humeur, et ses gloussements mettaient de la joie dans la maison. « Toute une bordée !» s'exclama l'homme en s'avançant pour s'asseoir à la table. « Les vents se sont pas calmés de la nuit !» marmonna Palmyre, qui progressa lentement dans la cuisine pour tendre l'assiette au mari de sa petite fille. Salivant devant la grosse tranche de jambon inhabituelle au déjeuner, Freddy haussa un sourcil inquisiteur. « Tu vas en avoir besoin, mon gars. Ça a l'air qu'il va neiger encore toute la journée. T'as pas fini de pelleter, mais je vais aller t'aider, » précisa Madeleine. « C'est mieux pas, » s'opposa sa grand-mère en coupant une grosse miche de pain. « Pas dans ton état. Voyons, grand-mère, je suis pas malade. Je suis encore capable de tenir une pelle. Peut-être que c'est pas une bonne idée, en effet. » Hésita à son tour son époux, même si pelleter seul, toute cette neige ne lui plaisait guère. Madeleine n'avait pas l'intention de s'asseoir sur le divan à tricoter, alors que leur maison et le reste du village étaient engloutis. Elle insista et au bout d'un moment, Freddy haussa ses épaules. « C'est vrai que t'es pas encore grosse. Si tu te sens en forme, certain. Grand-mère, je vais attendre qu'Arthur fasse sa sieste. Comme ça, vous allez pouvoir vous reposer vous aussi. » La vieille femme plissa les yeux derrière ses montures argentées et balbutia « Si j'étais capable de me tenir debout aussi, je pourrais vous aider. » « Arrêtez ça, grand-mère. Si on sort tous, qui va s'occuper de M. Arthur? » Madeleine fit un clin d'œil à sa grand-mère, qui bascula sa tête blanche sur le côté comme pour lui donner raison. « Bon, ça fait que je me grouille de manger et je sors matelas à job, » s'exclama Freddy en claquant ses bretelles bruyamment. Arthur, d'abord surpris par le bruit, éclata de rire. Devant la maison blanche de Simone et Tom, les enfants s'en donnaient à cœur joie dans les congères qui s'étaient formées. Philomène, bien remise de son malaise de la semaine précédente, glissait avec son ami Marie-Joseph et 2 garçons. Tom, grimpé sur le toit de la maison, dégageait la cheminée, son épais manteau grand ouvert. Il était à l'œuvre depuis les petites heures du matin, et comme la température était somme toute assez clémente, il avait fourré son foulard dans une poche et détaché sa parka. Les pantalons glissaient dans de hautes bottes de cuir, et il s'activait avec bonheur. « Enfin un peu d'ouvrage !» s'était-il exclamé en sortant du lit le matin même. Pendant la nuit, les bourrasques avaient laissé présager cette bordée, et le grand blond était content de pouvoir s'occuper l'esprit. La saison morte lui avait toujours servi de repos bien mérité, mais depuis la mort d'Éloi, le pêcheur avait besoin de bouger et de travailler pour ne pas penser à l'absence de son fils. Devant la porte de côté, Simone s'employait à tracer un étroit chemin pour se rendre à la route. Elle avait les joues rougies, le nez qui coulait et les yeux qui quittaient rarement de vue Béatrice, qui trottinait et tentait de grimper dans les montagnes comme les autres enfants. « Attention, Simone !» cria son mari en lançant une grosse pelletée de neige sur le dessus de la montagne à sa gauche. Quand la neige commençait à tomber en Gaspésie, les habitants sortaient leur équipement pour pouvoir se déplacer. Ni les carrioles et encore moins les quelques voitures ne pouvaient avancer tant que les routes restaient enneigées. Si les villageois avaient une urgence, ils devaient compter sur la débrouillardise et l'aide des voisins. Un hiver, alors que les jumelles avaient 10 ans, Marcelin avait grimpé sur le toit avec Jacqueline. Fâchée contre son père pour une vétille, Simone avait entraîné Madeleine et Clémence, alors âgées de 6 ans, à cacher l'échelle qu'ils avaient utilisée pour monter. Quand Marcelin avait réalisé le méfait, son fils et lui s'étaient époumonés et avaient pioché jusqu'à ce que Carmel sorte de la maison en panique. Choqué noir devant une telle insouciance, le père des jumelles avait sévèrement réprimandé les filles sous le regard satisfait de Jacqueline. Même si l'idée venait de Simone, ses sœurs avaient baissé la tête pour accepter la punition extrême. « Pas de dessert pour un mois. Je vais vous les faire passer, moi, vos idées dangereuses. » Appuyée sur sa pelle pour replacer une mèche rebelle sous sa tuque un peu croche, la femme sourit furtivement en pensant à cet épisode de son passé. Puis elle reporta son attention vers Horace, qui avançait péniblement dans le 3e rang, raquette aux pieds. Arrivé à ses côtés, le sexagénaire s'exclama d'un ton dépité « Il est pas là! » « Comment ça, pas là? » Horace avait décidé d'aller à l'église en ce dimanche matin, malgré la tempête qui s'était abattue sur le village. Il ne manquait jamais une messe, et c'est avec détermination qu'il avait marché dans la neige folle pour assister à l'office. Comme d'autres paroissiens courageux, il s'était cogné le nez sur les doubles portes. Lorsque finalement l'une des villageoises était allée frapper chez Gédéon, le bedeau, celui-ci avait marmonné que le curé Mathieu était parti l'avant-veille au soir. « Et ça a l'air qu'il sait pas quand notre curé va revenir », expliqua Horace en avançant péniblement vers la porte d'entrée. « Quant à moi, c'est pas une grosse perte », marmonna Simone dans son foulard à carreaux. La femme, tout comme son mari, n'avait pas digéré l'humiliation subie lors de la messe de minuit. Alors que tous les villageois rencontrés par la suite avaient fait part de leur surprise face à la décision de leur curé de choisir ce moment-là pour honorer les défunts de l'année, le saint homme, lui, n'avait jamais cru bon de venir vérifier comment s'étaient remises ses ouailles. Et cela, ni Tom ni Simone ne l'avaient accepté. Philomène arriva en courant près du duo et s'accrocha au manteau d'Horace. « Grand-papa, viens nous aider à monter sur la plus grosse montagne. On veut glisser sur nos tapes-culs et ils sont trop pesants. On a besoin d'un adulte fort. »« Fort, hein? » rigola l'homme malgré sa fatigue. Mais sa belle-fille veillait au grain et Simone eut tôt fait d'aviser les enfants qu'Horace était trop épuisé pour grimper leur engin de bois tout en haut de la butte. Philomène hésita. Son premier instinct ayant été de se lamenter et de quémander jusqu'à ce qu'Horace abdique. Pourtant, en observant les traits tirés de son grand-père, la fillette sut se montrer raisonnable, même si ses paroles dépassèrent sa pensée. « C'est vrai que t'es un peu vieux, puis je voudrais pas que tu meures comme Éloi. Ça ferait trop de peine à papa. » Sans remarquer les sourires figés des adultes, Philomène replaça ses grosses mitaines en les tirant avec ses dents et courut retrouver ses amis. « Il faut s'arranger tout seul !» cria la petite fille. Simone et Horace échangèrent un regard triste et le grand-père pénétra dans la maison sans dire un mot. Il se dépêcha d'enlever ses raquettes, changea de bottes et de gants et retourna à l'extérieur pour aller donner un coup de main à sa bru. Il n'était tout de même pas le genre d'homme à s'asseoir sur son divan en regardant par la fenêtre les femmes déneiger à sa place. Au même moment, sur la route principale, l'autoneige artisanale, conçue par le garagiste et testée pour la première fois lors de la tempête précédente, se mit en branle dans un grondement infernal. Les villageois qui se trouvaient aux premières loges de ce spectacle rigolèrent d'abord devant la grosse structure de bois sur ski construite par Noé Lévesque et son frère aîné. Quand les hommes passèrent devant le magasin général, l'énorme hélice faite à la main tournait à plein régime et les enfants taillefer restèrent admiratifs. « C'est quand même mieux que nos raquettes pour se déplacer », s'exclama Gérola. « On pourrait demander à Pat de nous aider à en construire une ?» proposa William, son cadet. Rosalie éclata alors de rire, sa face ronde se tournant vers la porte du commerce. « Je vous rappelle que vous parlez de l'homme qui a demandé au charpentier de venir réparer la porte parce qu'il était à la veille de devenir fou. Papa est encore moins habile que moi avec des outils, je pense bien. » Ses frères approuvèrent, mais lorsque la jeune femme, qui venait d'avoir ses 19 ans, ajouta « On pourrait demander à Freddy Poirier, par exemple. Ça a l'air qu'il est assez adroit pour travailler le bois. » Son frère aîné lui donna un coup sur l'épaule. « Toi, ma sœur, fais bien attention. »« De quoi tu parles ?» demanda Rosalie sur un ton qu'elle espérait indifférent. Son autre frère ricana et précisa « Tu penses qu'on s'est pas rendu compte que tu lui fais de l'œil chaque fois qu'il passe au magasin? Oh, il te va bien, ce chapeau, Freddy. T'as besoin de shining, peut-être? » Minauda William en imitant la jeune femme qui rougit en le fixant avec des yeux furieux. « Arrêtez donc de dire des niaiseries. C'est pas parce que moi je sais comment traiter les clients que vous devez en rire. Je vous ferai remarquer que si j'étais pas là, il n'y a pas grand-chose qui se vendrait du côté des vêtements. » Masqué par le bruit de l'autoneige qui s'éloignait après un arrêt forcé par une trop grosse butte, la réponse de Girola s'avéra inaudible. Mais de toute manière, les trois jeunes qui étaient sortis à moitié vêtus pour observer la machine du garagiste rentrèrent en vitesse se réchauffer dans le magasin. Rosalie se passa tout de même la réflexion qu'il lui faudrait faire très attention à ses gestes et paroles lorsque le beau Freddy viendrait faire son tour. Il ne manquerait plus que ses frères rapportent leurs suspicions à leur père. Ce dernier lui ferait toute une scène et l'empêcherait sûrement de servir le pêcheur à sa prochaine visite. Et ça, il n'en était pas question. En cette première journée de printemps, Madeleine regardait par la fenêtre, le sourire aux lèvres. Elle caressait son ventre, qui bombait le devant de sa robe fleurie, et se plaisait à rêver d'avoir une petite fille comme Philomène. Freddy, lui, préférerait un autre garçon, ayant dans la mire son futur bateau. « Quand ces petits-là vont grandir, je te jure que je vais les outiller pour qu'ils deviennent les meilleurs pêcheurs de la baie. » Sa femme ne répondait rien, sachant que la probabilité qu'il réussisse à accumuler assez d'argent pour acheter sa propre barge était infime. Surtout que son époux ne lésinait pas sur les beaux vêtements et les produits de qualité. La veille, au retour du magasin général, il avait fièrement étalé ses achats sur la table de bois, sous les regards incrédules de Palmyre et de Madeleine. « Je suis toujours pas pour me présenter à l'église habillée dans des haillons », avait-il expliqué. « Des haillons ?» Hilar, Madeleine avait déposé son fils, qui appuyait sur son ventre, et Arthur en avait profité pour s'éloigner à toute vitesse à reculons, jusqu'à son arrière-grand-mère, assise à sa machine à coudre. La jeune mère s'était avancée vers Freddy. Puis, elle avait agrippé le haut de son beau chandail de laine vert foncé et marmonné. « Qu'est-ce que t'entends par haillon, mon mari? Me semble que t'es l'homme le mieux habillé du village. Avec mon oncle Jean-Julien, mais lui, ça compte pas, il est célibataire. Il doit encore trouver une femme à charmer. Toi, par contre? À moins que... » Même si elle n'avait pas vraiment de crainte concernant la fidélité de son mari, Madeleine avait repoussé ses cheveux derrière ses oreilles, où brillaient les jolies perles offertes par Freddy pour son anniversaire, et avait toisé ce dernier, les yeux à moitié fermés. La femme avait fait couper sa longue tresse le lendemain de sa fête pour arborer une coiffure plus mature et ressembler à une vraie mère de famille. Ses boucles foncées dépassaient à peine ses épaules à présent. Elle avait approché son nez à quelques pouces de celui de Freddy et l'avait questionné, un rire dans la voix. « À moins que tu veuilles changer d'épouse, hein? » Ben voyons donc, certainement pas. Pour qui tu me prends? » Mais tout en bafouillant sa réponse, Freddy avait revu les formes épanouies de la jeune Rosalie lorsqu'elle s'était penchée pour nouer ses nouvelles chaussures au magasin. Craignant que Madeleine ne lise en lui, l'homme s'était empressé de ramasser ses vêtements neufs et les bras pleins, il s'était détourné pour monter à l'étage. Profitant du silence dans la maison pendant que sa grand-mère et son fils se reposaient, la femme songea au projet de Freddy en lien avec la pêche. « C'est certain que ce serait agréable d'avoir notre propre barge, de plus dépendre de personne. » Une moue sur les lèvres, Madeleine ne put s'empêcher de s'inquiéter pour la prochaine saison. Tom n'a pas contacté Freddy encore. Tout d'un coup, qu'il décide de ne pas le reprendre sur son bateau. Mais, ah non, ça se peut pas. Je sais qu'il ferait pas ça. Papa a été bien clair avant de mourir. Tom me déteste, mais pas au point de pénaliser mon mari et Palmyre, parce que si mon homme n'a pas de place sur sa barge, on va mourir de faim, nous autres. Je vois mal Freddy aller travailler dans nos champs. En plus, on les a encore loués à Jacques et à ses fils pour tout l'été. Madeleine se secoua pour calmer ses inquiétudes. De toute manière, son père Marcelin avait bien inscrit dans son testament que la place de second devait revenir à Freddy, sauf si ce dernier la refusait. Toute à ses réflexions, Madeleine ne s'était pas aperçue que sa grand-mère venait d'arriver dans la cuisine. La jeune sursauta quand Palmyre marmonna « Tu parles toute seule maintenant, ma fille? » « Oh, un peu, je dois vieillir. » L'aînée plissa drôlement son visage pour illustrer sa gaieté. Elle donnerait cher pour avoir encore la vingtaine. Se glissant près de sa petite fille, elle l'informa. « J'ai invité Rosario à venir souper avec nous autres ce soir. Avec la mort de son dernier frère, je te dis que mon ami en mène pas large. J'ai voulu t'en parler tantôt, mais ça m'est sorti de la tête. J'espère que ça te dérange pas. » Palmyre, qui avait toujours eu une silhouette arrondie, s'était voûtée un peu plus au cours de la dernière année. Madeleine délaissa ses bits de morue et s'avança tout près de la vieille pour la serrer affectueusement dans ses bras. Sa grand-mère demanda, sur un ton bourru, « Qu'est-ce qui me vaut donc cette embrassade? » « Je vous aime, grand-mère. Je vous le dis pas assez souvent. Vous m'avez sauvée l'année passée. Le savez-vous? » « Bon, bon. » Palmyre plongea son regard myope dans les belles billes noisettes de sa petite fille. Elle avait bien cru la voir mourir de tristesse après la mort d'Éloi. En face l'une de l'autre, les deux femmes sentirent leurs yeux s'embuer. Quand elle pensait à l'année 1934, Madeleine était bien consciente que sa vie avait radicalement changé. Pour le pire, à cause de la perte de son neveu. Pour le meilleur, grâce à l'arrivée d'Arthur. Mais malgré tout son amour pour son enfant, la privation de sa sœur Simone resterait à jamais le plus grand drame de son existence. Elle s'était promis que jamais rien ne les séparerait. Pas une amie, pas un homme. Palmyre mit sa main tremblante sur la joue ronde de sa petite fille et l'embrassa sur le front. « Alors ça te va pour Rosario? » demanda-t-elle encore émue. « Oui, c'est parfait. Ça permettra à Freddy de se mettre beau. Il a plus de vêtements que nous deux réunis. » Les femmes éclatèrent de rire, heureuses de cette belle complicité. Quand Rosario quitta la Maison Bleue un peu plus tard dans la soirée, sa bonne amie l'accompagna dans le tambour en le disputant gentiment. « T'avais arrêté ça, la pipe, mon vieux. Veux-tu bien me dire pourquoi t'as recommencé? Tu disais que ça t'encrassait les poumons sans bon sens et que tu voulais pas mourir comme ton père à bout de souffle. Bof, il me reste plus grand monde autour de moi. Je peux bien me permettre ce plaisir-là, » répondit tristement Rosario, en déposant sa pipe sur le bord de la fenêtre avant de se pencher difficilement et enfiler ses bottes. « Merci quand même », murmura Palmyre, la main serrée fermement sur le pommeau de sa canne. « Toi, c'est pas pareil, mon ami. Tu sais que t'es importante pour moi, mais ça reste que de voir mes frères et sœurs partir un après l'autre, c'est dur pour le moral d'un homme. » Rosario toussota pour cacher sa peine, et le cœur de Palmyre se remplit d'affection. Elle s'approcha lentement, ses pantoufles glissant avec prudence sur le plancher de bois, et sans se préoccuper du froid qui envahissait le tambour, elle passa ses bras autour de son vieux camarade. L'homme l'enlaça à son tour et ils restèrent longtemps ainsi, poitrine contre poitrine, à penser à tous ces disparus autour d'eux. Au bout d'un long moment, quand Palmyre frissonna malgré la chaleur dégagée par le corps de Rosario, il se recula un peu, reprit sa pipe à présent éteinte, remit son bonnet sur sa belle tête blanche et déposa un doux baiser sur les lèvres fines de Palmyre. « À bientôt, mon ami. À bientôt, » répondit la vieille dame d'une voix émue. Comme il allait refermer la porte de la maison, Palmyre la retint d'une poigne solide et glissa « « Avise-toi pas de me laisser, mon Rosario. On a encore bien du bon temps à partager. Promis. » souffla l'homme en rentrant sa tête dans le col de son manteau usé. Il descendit lentement les marches et s'éloigna dans l'étroit sentier creusé dans la neige par Freddy et Madeleine. Palmyre resta longuement à le suivre des yeux en priant le Seigneur de prendre soin de son vieux copain. Elle leva la main pour toucher ses lèvres et sourit en s'apercevant qu'une envolée de papillons s'était agitée dans sa poitrine. « Voyons, la vieille, calme-toi » chuchota-t-elle avant de retourner à l'intérieur de la maison.